Alors, ce matin, on continue notre étude du livre de M. Piper, Providence. Jusqu'à maintenant, on a examiné plusieurs grandes vérités théologiques qui nous ont vraiment habitués à nous émerveiller de la nature infiniment variée de Dieu à travers sa providence, à travers le fait que dans la vie, il nous arrive toutes sortes de choses et que parfois, ça peut être difficile de se convaincre que Dieu a vraiment planifié, organisé et orchestré tout cela pour notre bien. En tant que créateur de l'univers et auteur même de notre salut, ce que la Bible nous dit d'une certaine manière à travers le livre de M. Piper, c'est que l'Éternel est la source même de la vie qui coule en nous. La vie biologique, bien sûr, mais également la vie spirituelle. Très souvent dans l'histoire de l'Église, on a vu qu'il y a deux grands pans au niveau du salut. Soit Dieu est l'auteur absolu de notre salut, ou on a une part à gagner à travers nos œuvres, à travers le fait de faire du bien. C'est les deux courants qui courent à travers les visions du monde. Comment est-ce que je peux atteindre Dieu? Est-ce que c'est par le fait de faire une bonne vie, d'être acceptable à ses yeux, d'une certaine manière d'essayer de gagner mon ciel, comme on dit dans la fameuse expression québécoise? Ou est-ce que Dieu est vraiment à la base de tout ce qui concerne mon salut auprès de lui? Évidemment, étant en tant qu'évangélique, on penche beaucoup plus vers la deuxième option, je vous dirais, on en est absolument convaincu. Mais une des choses parfois avec lesquelles on lutte dans nos vies, c'est de quelle manière les circonstances qui s'articulent dans nos vies dépendent entièrement de la grâce et de la bienveillance de Dieu. Ce qu'on voit à travers le livre de M. Piper, c'est que les racines de sa providence s'enfoncent jusque dans l'éternité passée avec Dieu, au moment où il a décidé que chaque être humain qu'il allait sauver a été littéralement choisi par lui, et qu'à cet égard, Dieu agit toujours selon le conseil de sa volonté à lui. Alors, ce qu'on va voir ce matin, c'est de quelle manière la providence de Dieu agit dans la sanctification progressive du croyant. Alors ça, c'est des termes un peu théologiques qu'on va voir ce matin. Comment Dieu s'active dans le fait de notre obéissance envers le message de l'Évangile. Parce que très souvent, Dieu, d'accord, Dieu me gracie, Dieu est venu à la croix, j'accepte le message de l'Évangile. Mais ça, c'est juste le début. C'est pas la fin. La vie chrétienne n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Et ça commence au moment de notre conversion, où est-ce qu'on est nouveau, et là, la course commence. Et là, on dirait que parfois, « Ok, d'accord, Seigneur, tu m'as sauvé par grâce, mais maintenant, c'est à moi de faire un bout de chemin pour essayer de le plus possible de te suivre par mes propres forces. » Si on s'enligne dans cette dimension-là, on oublie la providence de Dieu. Ce que là, M. Piper essaie de nous convaincre dans son livre, et qu'il y arrive assez bien, c'est que la grâce de Dieu est avec nous autant dans l'origine de notre salut que dans notre marche avec lui. Évidemment, on peut se poser deux grandes questions au sujet de la providence de Dieu dans nos vies. Premièrement, la première question qu'on peut se poser, c'est que si tout est réglé au quart de tour dans la manière dont Dieu arrange les circonstances et le temps dans notre vie, bien à quoi s'attend-il de moi afin de marcher sur la file de la vie? Si Dieu a tout planifié d'avance, bien à quoi est-ce qu'il s'attend que moi je puisse faire en tant qu'être humain? Est-ce qu'il s'attend juste que je marche en ligne droite comme un robot, sans avoir un libre arbitre, sans avoir rien à décider par moi-même? C'est une des questions qu'on peut se poser. La deuxième question, c'est que si tout est déjà programmé de la part de Dieu, à quoi peut-il bien s'engager lui-même, la personne de Dieu, afin de nous permettre d'être vigilants et confiants dans les circonstances qui s'organisent dans nos vies? Si Dieu permet telle situation dans ma vie, que tout est déjà programmé, comment est-ce que je peux me confier dans le fait qu'il me veut du bien et que tout va s'organiser pour que je puisse prendre la place qu'il a déjà planifiée pour moi dans ma vie personnelle, dans ce qu'il a déjà tout prévu d'avance pour moi? Eh bien, pour répondre à cette question, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va examiner un peu ce que nous dit la parole au sujet de ces deux grandes questions. Est-ce qu'une des choses qu'on peut vraiment tout d'abord voir dans la parole, c'est que dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, les auteurs nous invitent, au sujet de notre foi, à demeurer ferme, à persévérer, à combattre, à courir, à utiliser toutes les ressources que met Dieu à notre disposition afin de tenir bon dans notre foi. Regardez par exemple ce que nous dit la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 12 et 13. « Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ici, on a deux grandes vérités qui nous est dites au sujet de notre marche avec Dieu. Premièrement, dans la première partie du passage, on pourrait tout de suite croire que la vie chrétienne, bien, c'est une histoire qui tient entièrement sur nos épaules. C'est à nous, nous dit le texte, à travailler à notre salut. Alors, si on s'arrêterait là, on pourrait dire, bien écoute, Miguel, mon salut auprès de Dieu, le fait que je devienne acceptable à ses yeux, ça s'arrête là, that's it, that's all, c'est fini, c'est à moi à travailler à mon salut. Heureusement pour nous, ce passage n'arrête pas là. Ce qu'il nous dit par la suite, c'est que le Seigneur ne se tient pas en marge de notre marche spirituelle avec lui, mais ce que le passage nous dit à la fin du passage, c'est que c'est Dieu lui-même qui participe, qui travaille et qui opère en nous tout ce qui est nécessaire afin qu'on puisse vivre à ses côtés. Donc, sans laisser notre libre arbitre de côté, Dieu est au contrôle de notre salut et de notre marche avec lui. C'est lui qui nous permet de lui obéir. Dans toutes les visions du monde que vous allez retrouver dans l'humanité, l'objectif central, c'est comment je peux m'approcher de Dieu. Et dans toutes les visions du monde, c'est à l'être humain à essayer, soit par ses actions, par ses prières, par sa discipline personnelle, d'atteindre Dieu. La christianisme, son originalité, c'est que c'est complètement l'inverse. C'est la seule vision du monde où c'est Dieu qui vient vers l'être humain. C'est pas à l'être humain à atteindre Dieu, c'est Dieu qui vient atteindre et rejoindre l'être humain là où il est dans sa déchéance. C'est ce qui donne l'originalité et la pertinence au christianisme, et c'est ce qui permet de nous dire que Dieu est un Dieu providentiel. Même s'il nous demande de travailler à notre salut, cela n'exclut jamais le fait que c'est lui-même qui permet que je puisse travailler à mon salut. C'est comme si ma grâce, la grâce de Dieu et le libre arbitre s'entremaillaient ensemble pour former ce qu'on appelle la providence de Dieu. Regardez ce que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. « Mais par la grâce de Dieu, » c'est l'apôtre Paul qui nous parle, « mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi, sa grâce de Dieu, n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé beaucoup plus qu'eux tous, non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » Ce que nous dit Paul ici, c'est que Dieu n'est pas un acteur secondaire dans sa part au salut. Dieu n'est pas un acteur secondaire dans toute la discipline ou les actions ou les choses qu'il peut faire pour Dieu à travers son missionnat, mais que c'est Dieu lui-même qui travaille en lui. Il en est le principal et unique artisan. C'est Dieu qui travaille en lui. C'est là que l'aspect de la grâce peut vraiment mieux se comprendre à travers le libre arbitre. Dieu ne nous laisse pas seuls face aux dangers et aux risques de la vie, mais il s'en mêle lui-même afin que nous puissions avoir l'assurance que rien ne peut nous séparer de son amour et de la qualité ineffable de son travail dans nos vies, dans nos cœurs. Contrairement à beaucoup d'autres visions du monde, notre rapport avec Dieu n'est pas simplement mystique, il est relationnel. C'est moi qui entretiens un rapport personnel avec Dieu et c'est Dieu qui vient vivre en moi, évidemment à travers la nouvelle naissance. Contrairement à beaucoup d'autres visions du monde, où c'est à moi, comme je vous disais, d'atteindre Dieu, c'est Dieu qui vient établir tout d'abord une relation avec lui, avec moi. Il m'adopte, il me fait entrer dans sa famille. Je porte son nom, je deviens le temple du Saint-Esprit, et c'est à travers ces ressources que Dieu me donne que je peux par la suite marcher sur un chemin d'obéissance et de respect de sa loi divine. Mais sans cet esprit-là, est-ce que je peux obéir à Dieu? Très souvent dans notre monde, on peut dire, ah, telle personne, souvent en tant qu'Église, on peut avoir même le réflexe de juger les gens qui vont vivre une vie vraiment en dehors de la volonté de Dieu. Mais je vais vous poser la question, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui n'a pas l'esprit de marcher comme s'il l'avait? Il ne faut pas s'étonner que notre monde court à sa perte. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Je ne peux pas demander à quelqu'un de marcher selon l'esprit de Dieu s'il n'a pas l'esprit de Dieu. c'est lui demander, c'est comme demander à un enfant de quelques semaines de manger un steak. Il ne sera pas capable biologiquement de le faire, il ne sera pas capable de le digérer, il n'est pas apte à ça, il n'est pas construit pour ça. C'est la même chose avec quelqu'un qui n'a pas l'esprit. Il n'est pas capable de marcher selon la providence de Dieu car il n'a pas l'esprit. Ce que nous devons admettre, c'est que nous sommes ici devant une certaine forme de mystère. Dieu, d'une part, nous expose que la vie chrétienne est tout d'abord un combat. Je dois apprendre à demeurer ferme, discipliné dans ma vie personnelle, d'obéissance envers la loi que Dieu a mise devant moi, la loi de l'Évangile. Et d'un autre côté, il m'indique que c'est son engagement qu'à lui à me mener à bon port. C'est lui qui va me mener à l'obéissance, mais en même temps, il me demande d'obéir. On est comme ici devant deux grandes vérités qu'on peut avoir parfois personnellement de la misère à expliquer, mais ça demeure une certaine part de mystère. Il y a des questions auxquelles, humainement, pour nous, c'est insaisissable et c'est tout à fait normal parce que nous sommes des créatures et que la providence de Dieu, c'est l'œuvre d'un créateur. Et c'est tout à fait normal qu'une créature ne puisse pas comprendre son créateur. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant par rapport à ce qu'on vient de voir? Ça va? Excellent, on va poursuivre. Ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que devant ce constat théologique qu'on vient de voir, il est possible de tomber dans les deux pièges suivants. Si je me confie dans mes efforts personnels pour atteindre Dieu, qu'est-ce qui risque d'arriver? Bien, je risque de m'apercevoir que ce ne sera jamais assez, parce que Dieu exige la perfection. Alors, je risque de tomber dans le désespoir et le piège de la performance. C'est à moi à mener une vie qui est acceptable aux yeux de Dieu, et là, je tombe dans ce qu'on appelle le légalisme, la performance, et qui mène nécessairement au désespoir. Toutefois, il y a un autre piège, c'est que si je me confie indifféremment dans la providence absolue de Dieu quant à mon salut, eh bien, je risque de tomber dans une certaine forme de naïveté. Je n'ai rien à faire pour obéir à Dieu. Tout ce que j'ai à faire, c'est de l'accepter, le message de l'Évangile à la croix. Je suis sauvé, j'appartiens maintenant, je suis scellé par Dieu. Donc, maintenant, ma vie, bien, maintenant, je suis arrivé à destination, c'est-à-dire, je suis accepté de Dieu. Maintenant, je peux mener la vie que je veux. Eh bien, évidemment, ça, on va tomber ici dans un autre aspect où est-ce que je vais tomber dans une certaine forme de naïveté ou de mollesse face aux justes exigences de Dieu pour ma vie. Comment est-ce que je peux me retrouver dans cela? Comment je peux trouver un équilibre entre le fait que je suis doté d'un libre arbitre qui me permet de faire des choix et il y a l'aspect aussi de la souveraineté de Dieu qui gère tout sans que rien ne soit sous son observation. Tout ce qui arrive, Dieu l'a planifié, l'a prévu et l'a orchestré afin de me mener là où il veut me mener. Une des clés théologiques que le Nouveau Testament nous enseigne pour bien comprendre ça, c'est qu'il faut comprendre qu'avant qu'il y ait le moindre effort ou geste d'obéissance de ma part envers l'Évangile ou envers Dieu, il y a deux événements majeurs qui rendent mon obéissance possible. Le premier de ces événements-là est un événement historique, c'est-à-dire c'est la mort et la résurrection de Jésus. Sans la mort et la résurrection de Jésus pour ma propre vie, pour prendre sur moi le fardeau de ce qui me condamne, bien, mon obéissance, elle est tout de suite vouée à l'échec. C'est tout d'abord la mort et la résurrection de Jésus qui me permet par la suite d'avoir l'arsenal et les ressources nécessaires pour pouvoir marcher une vie qui est digne en tant que chrétien. Si j'oublie la croix, le message de l'Évangile, mon obéissance devient de la performance. Ce n'est plus de la grâce. Le deuxième événement qui me permet d'obéir d'une manière digne à ma vocation en tant que chrétien, bien, c'est le moment de ma conversion. Alors là, ce n'est pas un événement historique. C'est un événement, oui, c'est historique dans le sens que ça s'est déjà passé, mais c'est un événement beaucoup plus personnel. Ici, on parle de ma nouvelle naissance. On parle du fait que Dieu m'accepte en tant qu'enfant de Dieu au moment où je me repens, que je m'humilie et que par la foi, je me confie dans ce qui est arrivé à la croix pour devenir acceptable aux yeux de Dieu. Mais ce qui arrive à ce moment-là, lors de ma conversion, c'est que non seulement je deviens acceptable aux yeux de Dieu, mais Dieu me donne également quelque chose d'extrêmement précieux, qui est son esprit. Je suis scellé par son esprit, et c'est à ce moment-là que mon obéissance devient possible. Sans l'esprit de Dieu, mon obéissance ne devient que de la performance. Et c'est à ce moment-là que la grâce de Dieu me permet, à travers mon libre-arbitre, de prendre des décisions qui sont encore sous le contrôle de la providence de Dieu. Sans ces deux repères, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus et ma nouvelle naissance, eh bien, la grâce de Dieu ne pourrait pas être répandue sur moi et toute obéissance de ma part ne pourrait être que vouée à l'échec. Ce qui est clair ici, c'est que la vie chrétienne repose fondamentalement sur ce que Dieu a accompli pour moi ou pour nous, plutôt que ce que nous, on peut faire pour lui. La vie chrétienne n'est pas basée sur ce que moi, je peux faire, mais sur ce que Dieu a fait. C'est lui-même, Dieu, qui me réconcilie à lui. C'est lui qui m'adopte. Sa grâce me permet de vivre en lui et moi et à lui de vivre en moi. Ce n'est plus moi qui vis, comme dit l'apôtre Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, il y a deux, trois semaines de ça, M. François Turcotte est venu nous expliquer ça, cet aspect de unité qu'il est possible pour nous de savourer en la personne de Jésus et qui me permet par la suite de mener une vie qui est digne. Il ne faut jamais oublier que c'est une providence, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Et c'est cette grâce qui me permet par la suite d'avoir ce qui est nécessaire pour pouvoir grandir spirituellement, bien sûr dans mes pensées, mais également dans mes actions, dans les décisions que je prends. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Excellent. Ce que je viens de vous parler, c'est-à-dire le message de la croix, c'est ce qu'on appelle la justification. C'est-à-dire que le sang versé par Jésus me purifie. Dieu peut alors me regarder comme un être acceptable et déclarer saint par le prisme de ma foi. Ma foi en Jésus me permet d'être le bénéficiaire de ce que lui a reçu à la croix, c'est-à-dire la condamnation de Dieu. Donc, sa condamnation, sa mort, devient la mienne. Et sa vie, bien, elle devient également la mienne. Il y a ici une espèce d'osmose qui se fait entre ce que Dieu a accompli à la croix et le fait que ma foi me permet d'être le bénéficiaire de ce qu'il a accompli à la croix. Il y a ici quelque chose d'extrêmement organique et spirituellement qui me permet d'être uni à la personne de Christ. Et ce qui est important de saisir ici, c'est que Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire afin qu'on puisse avoir les moyens de marcher selon ce qu'il nous convie à faire. Lorsque le Nouveau Testament nous donne beaucoup d'impératifs, c'est-à-dire des choses que nous devons faire, ce n'est jamais lié à notre libre-arbitre, mais c'est lié plutôt à l'Esprit qui est en nous, qui vit en nous, qui va guider notre libre-arbitre à prendre des décisions à la vocation que nous avons reçue de la part de Dieu, c'est-à-dire que nous devenons ses enfants. Nous devenons sa propriété. Il vient vivre en nous. C'est ce qui me permet de lui obéir par la suite efficacement. En d'autres mots, ce qu'on pourrait dire, c'est que la seule conduite sainte qui plaît à Dieu dans la vie de ceux qui l'acceptent, c'est celle qui est motivée par le fait que nous sommes déjà saints par notre position en la personne de Jésus. Tout ce que nous faisons par la suite, c'est de vivre ce qui a déjà été mis en moi ou en nous. Notre obéissance personnelle à Dieu n'entre pas en contradiction avec ce qu'il a prévu et préparé pour nous. Tout ce que nous faisons, c'est que, comme le dit Éphésiens, c'est que nous appliquons ce que Dieu a déjà préparé d'avance pour nous. C'est comme si Dieu, ces œuvres-là, ou cette vie-là dans laquelle nous menons depuis notre nouvelle naissance, Dieu a déjà tout prévu ça. Donc, je ne peux même pas avoir le luxe ou l'orgueil de dire, « Bien, Seigneur, tu ne vois pas tout le bien que je suis en train de faire. » Dis, erreur, mon gars, là. Tu es juste en train de faire ce que j'ai déjà d'avance préparé pour toi. Toi, tu fais juste marcher dans les traces que j'ai déjà tout planifié pour toi. Donc, si tu veux t'enorgueillir de tes actions, bien, je suis désolé, mais tu n'as même pas le luxe d'en être l'auteur. C'est moi qui ai préparé tout ça pour toi. Toi, tu en es juste l'exécutant. Est-ce que ça veut dire que ça te libère de toute chose envers moi? Bien sûr que non. mais ça prouve juste que je suis uni à toi et ce que j'ai planifié pour toi, bien maintenant, tu es en train de l'appliquer. Donc, tu marches dans la voie pour laquelle je t'ai appelé. Dans le Nouveau Testament, on nous dit clairement que pour mettre à mort le péché dans nos vies, pour rechercher la sainteté qui convient à la providence de Dieu, il faut réaliser que, tout d'abord, seule une nature fautive qui a été pardonnée peut ensuite être éliminée. Avant d'éliminer des fautes dans nos vies, avant de détruire notre nature pécheresse, j'ai tout d'abord besoin que cette nature-là soit pardonnée. Je ne peux pas mettre à mort le péché dans ma vie sans que le pardon intervienne tout d'abord pour me permettre de mettre à mort le péché. Au Moyen Âge, on voyait souvent dans l'Église catholique favoriser une espèce d'ascétisme où est-ce qu'on se retirait, et là il y avait des monastères où est-ce qu'on essaie de mettre à mort par des espèces de privations. On se privait de nourriture, on se privait de liberté, on se privait d'une vie de famille. Pourquoi? Pour être acceptable aux yeux de Dieu, pour mettre à mort notre nature pécheresse. Grande erreur. La nature pécheresse, bien sûr, elle est éliminée, elle est détruite, nous dit le Nouveau Testament, mais pas avant que le pardon intervienne dans nos vies. Ça prend le message de l'Évangile pour que je puisse combattre et mettre à mort ma nature pécheresse dans ma vie. Dieu ne nous accorde pas son pardon pour que nous fassions mourir le péché en nous, mais c'est le contraire. Dieu nous accorde son pardon, tout d'abord, bien sûr, pour que nous soyons acceptables à ses yeux, mais ce n'est pas en faisant le bien que j'ai son pardon. C'est son pardon qui vient tout d'abord, et par la suite, je peux apprendre à mettre à mort le péché ou ma nature pécheresse coupable, condamnable qui est en moi. C'est la puissance du pardon accordée par l'Évangile qui nous permet d'éliminer la force et la puissance de ce qui nous condamne. Regardez ce que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7 à ce sujet. C'est l'apôtre Paul, encore une fois, qui nous parle et qui dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Regardez ce que Paul dit à ses lecteurs ici. Il leur dit « Faites disparaître le vieux levain, puisque vous êtes sans levain. » Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Eh bien, ce qu'il dit, c'est que si vous avez accepté le message de l'Évangile, votre nature coupable et pécheresse, elle a été condamnée, elle a été mise à mort. Vous êtes sans levain, vous êtes sans une nature pécheresse. Donc, faites-la disparaître. Appliquez dans votre vie ce dont vous êtes pourvu spirituellement aujourd'hui à travers le message de l'Évangile. D'une certaine manière, autrement dit, ce que Paul demande, c'est qu'il leur demande de faire disparaître la nature coupable et pécheresse qui les menace, puisqu'elle est déjà vaincue. Elle est déjà morte, cette nature-là, qui parfois peut nous tenailler. Dieu l'a détruite à la croix. Elle n'existe plus. Il l'a crucifiée. Le secret, souvent, dans la vie, dans notre marche chrétienne, c'est de voir le péché et la nature de ce que nous sommes comme Dieu lui-même voit les choses. Et Dieu nous voit comme des vainqueurs. Dieu nous voit comme des gens qui ont crucifié leur nature pécheresse, leur nature coupable. Donc, si vous êtes pourvu d'une telle identité en tant que croyant, eh bien, marchez d'une manière digne de votre vocation. Marchez dans la sainteté. Nous sommes désormais, comme nous disait M. Turcotte il y a deux semaines, nous sommes en lui. C'est ça notre identité. Tout ce que Christ a accompli à la croix devient, d'une certaine manière, nous sommes les réceptacles de ce que Dieu a accompli à la croix. Ce privilège devient à nous. De la même manière que Dieu est saint, nous sommes maintenant, par notre foi en lui, nous possédons la même sainteté. La mort qu'il a subie, bien, nous en sommes également les bénéficiaires. Nous avons mis à mort la nature pécheresse qui est en nous parce que Dieu l'a exécutée. Très souvent, si le péché s'accroche tant à nos vies, c'est que nous accordons à notre nature pécheresse une force qu'elle n'a plus. Au lieu de nous voir comme, au lieu de voir le péché comme quelque chose de mort, comme quelque chose d'impuissant, qui n'a plus d'emprise sur nous, eh bien, on préfère se voir comme des victimes. Ah, je suis victime de mon impatience, je suis victime de ma colère, je suis victime de mon amertume. On n'est pas des victimes. Ce que Dieu nous dit le Nouveau Testament, c'est que nous sommes de nouvelles créatures et que cette nouvelle créature-là, eh bien, elle a crucifié sa nature pécheresse, elle a été détruite. Le problème, c'est que parfois, nous ne croyons pas à cette identité que nous avons. Nous n'y croyons pas totalement. Peut-être qu'on peut y croire, mais avec des petits doutes. Est-ce que vraiment Dieu a mis à mort le péché dans ma vie? Parfois, j'en doute, parce que ça a une emprise sur moi. J'ai encore une chair qui est encore faible. Alors, parfois, oui, c'est un combat. Le Nouveau Testament nous dit très bien que c'est un combat. Mais n'oublie jamais que tu as une nouvelle nature. Tu as une nouvelle identité. Et c'est en te référant à cette nouvelle identité que tu peux maintenant profiter de la providence de Dieu qui va te permettre de lui obéir, qui va te permettre de marcher avec lui. Ce n'est pas toi qui fais cette marche-là, c'est Christ qui l'a fait en toi. C'est Christ qui en est l'auteur. Toi, tu en es simplement l'instrument, tu en es l'exécutant. C'est Dieu lui-même qui, sa conteste, nous amène à l'obéissance sur la base de son pardon. C'est lui qui nous procure la force, l'énergie, le courage, la possibilité par son esprit de lutter contre le péché dans nos vies. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive du croyant. C'est-à-dire qu'à partir du moment de notre nouvelle naissance, eh bien, on est un bébé spirituel. Et maintenant, qu'est-ce qu'un bébé est appelé à faire? Il est appelé à grandir, il est appelé à prendre la maturité, bien sûr physique, mais également morale, également spirituelle. Et c'est à ce moment-là que Dieu, dans notre vie, peut faire un travail qui est parfois lent, qui est parfois souvent imparfait dans chacune de nos vies, mais ça, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de notre faiblesse, à cause de nos lacunes, de nos manquements. C'est à nous maintenant à ne jamais oublier cette identité que Dieu nous a donnée à la croix pour savourer les merveilles que l'on peut bénéficier en lui. Dans sa providence, Dieu a tout planifié afin que la nature coupable de notre être soit non seulement pardonnée, mais qu'elle soit aussi éliminée et détruite une fois pour toutes. Quand on lutte avec quelque chose, une tentation, quelque chose qu'on sait très bien n'être pas digne de notre vocation en tant que chrétien, il ne faut jamais oublier de se réfugier derrière cette identité que nous avons et que nous pouvons profiter à travers la grâce et la providence de Dieu. Ne jamais oublier que notre nature pécheresse, elle a été détruite, éliminée, elle a été mise à mort. Je vais vous donner une petite illustration que j'ai vécue l'été dernier. Laura et moi, et mes deux plus jeunes enfants, Elliot et Florence, on a pris des vacances sur le bord de l'océan, aux États-Unis, dans le Maryland. Ça fait plusieurs fois qu'on va dans ce coin-là. C'est un beau coin, on aime bien. Moi, je suis pas un baigneux, mais dans l'océan, lorsqu'il y a des vagues, là, la tentation est forte d'aller me baigner. Un après-midi, j'étais assis sur la plage, relax. Justement, j'étais en train de lire La Brique de M. Piper. À l'ombre, j'étais bien. Et puis je vois mon Elliot. Elliot, 14 ans, il s'en vient vers moi. Et là, il vient s'asseoir à côté de moi. Et là, je le sens, là, il veut jaser. Pour ceux qui connaissent Elliot, jeune homme charmant, curieux, passionné. Il s'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses, Elliot. Et une des choses qu'il aime particulièrement faire, vous savez c'est quoi Elliot? Vous l'avez peut-être remarqué pour ceux qui le connaissent. Elliot, il aime parler. Si vous lui posez une question, attachez votre sucre avec de la broche ou vous allez en avoir pour votre argent. Il va pouvoir vous tenir pendant des heures sur une panoplie de sujets. Et alors, on est assis tous les deux. Et là, il commence à discuter avec moi. Et il s'est mis à m'expliquer les secrets qui entourent la vie de ce qu'on appelle le Bernard l'ermite. Vous connaissez le Bernard l'ermite? Alors, là, on est sur la plage. Alors, il y a des Bernard l'Ermite. Il y a toutes sortes de kiosques sur la Maine, là, à Ocean City, dans Maryland. Notamment, ils vendent des Bernard l'Ermite. Alors, c'est un crustacé. C'est un crustacé qui possède ce qu'on appelle un exosquelette. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça mange en hiver, Saint-Miguel, un exosquelette? Eh bien, contrairement aux humains, nous, nos os, ils se situent sous notre chair, nos nerfs, nos muscles. Alors, notre squelette, il est intérieur. On a un squelette, un endosquelette. Alors, lui, contrairement à nous, le Bernard l'Ermite est un crustacé qui possède un squelette à l'extérieur de sa chair. Alors, pour se protéger, son squelette est à l'extérieur de ses muscles, de ses nerfs. Et par-dessus ce squelette-là, il va même se fournir une certaine coquille. Alors, ce qui est intéressant avec le Bernard l'Ermite, c'est que son squelette, qui est extérieur à son corps, et sa coquille, bien, ils ne grandissent pas au même rythme que lui. Alors, sa chair, ses nerfs, ses muscles, ils grandissent, mais pas son squelette et pas sa coquille. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Eh bien, à un moment donné, il va falloir qu'il se débarrasse de son squelette et de sa coquille parce qu'elles sont trop petites pour son corps. Alors, quand le Bernard l'Ermite grandit et que son squelette ne lui convient plus, il s'en débarrasse. Il se débarrasse de sa vieille carcasse, de son exosquelette. Et vous savez ce qu'il fait pour se produire un nouveau squelette? Il va manger l'ancienne. Il va la dévorer. Il va la manger, non seulement pour pas qu'elle traîne ici, là, mais pour en produire une nouvelle. Alors, est-ce que l'exosquelette, il s'en débarrasse? Il la fait disparaître pour en produire une nouvelle. Alors, moi, j'écoutais mon garçon et puis j'avais un peu de doute. Ça me paraissait curieux qu'il mange son squelette pour en produire une nouvelle. Et là, je fais des petites recherches sur YouTube puis un peu partout. Et vous savez quoi? Il avait raison, le petit Moses. Il dit, ce qu'il disait, c'était pas de la frime. Oui, sa coquille, il ne la mange pas, mais son squelette, lui, il s'en débarrasse pour en produire une nouvelle. Et lui, je dis, écoute, ça me fait penser à ce que je viens de lire avec M. Piper. Dans le sens que la vie chrétienne est un peu basée sur le même principe. Pour marcher en nouveauté de vie et suivre le chemin que Dieu nous invite à suivre, il ne s'agit pas simplement d'abandonner notre vieille nature perdue et coupable sur le bord du chemin, mais il s'agit de la crucifier, de l'éliminer de nos vies, de la faire disparaître, un peu comme le Bernard l'Ermite fait disparaître son vieux squelette coupable pour en produire une nouvelle. Eh bien, notre vieille nature coupable, ce n'est pas nous à le manger, c'est Dieu lui-même qui détruit cette vieille nature pour en produire une nouvelle. Et cette vieille nature-là, elle n'est pas sur le bord du chemin en train de traîner, en train de nous tenter à un moment où est-ce qu'on peut être plus fatigué ou plus morose dans nos vies pour nous tenter puis nous faire tomber. Non, non, cette nature-là, elle a été condamnée, elle a été détruite. Regardez par exemple ce que nous dit l'Épître aux Galates, au chapitre 5, versets 22 à 25. Toujours l'apôtre Paul qui nous parle, qui nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Le terme crucifié qui est évoqué ici dans le passage signifie quelque chose qui est détruit ou qui est encore éliminé. C'est ce à quoi nous invite l'Évangile et la providence de Dieu pour marcher dans la sainteté, c'est-à-dire détruire notre nature pécheresse par celle que Dieu nous a imputée à la croix. C'est pas nous qui faisons l'œuvre de détruire, c'est Dieu qui l'a fait. Mais est-ce que j'y crois, moi, personnellement? Et quand on dit qu'un chrétien est sauvé par la foi, c'est là une dimension extrêmement importante dans notre unité avec ce qu'on reçoit en tant qu'identité spirituelle, c'est que Dieu affirme quelque chose dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il me dit qu'à la croix, ma vieille nature coupable a été crucifiée, détruite. Est-ce que, maintenant, on a une vérité théologique ici, là, mais est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois profondément? quand je suis dans le feu de l'action. Quand il y a quelque chose qui me tente énormément, est-ce que je crois en cette identité spirituelle de vainqueur que j'ai reçue à travers le message de l'Évangile? Ou est-ce que je préfère bien, tout simplement aller les choses, ou même essayer par moi-même de vaincre cette tentation? Vous n'êtes pas à la hauteur, les amis, je ne suis pas à la hauteur. Il n'y a personne d'entre nous qui peut surpasser ces tentations-là et avoir constamment la victoire. C'est simplement en me réfugiant dans mon identité en Christ, en savourant mon unité spirituelle qui est possible de vivre avec Christ, que je peux être à même de combattre ma nature pécheresse que lui-même a exécutée à la croix. Le problème dans nos vies, dans nos luttes, dans notre tentation contre le péché, c'est que parfois nous oublions qui nous sommes vraiment en Jésus-Christ. Au lieu de nous efforcer à mieux comprendre et saisir qui nous sommes dans notre union avec Jésus, nous nous efforçons de tenir le coup et de marcher avec diligence. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas marcher dans la maturité spirituelle si je ne suis pas conscient de mon identité spirituelle. C'est ça qui va me permettre de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle je suis appelé. Mon unité avec la personne de Jésus. La providence de Dieu est basée sur les merveilles de l'unité spirituelle qu'il est possible de savourer en Christ afin d'éliminer la nature qui autrefois me condamnait. Vous savez, lorsqu'on parle de la nouvelle alliance en Jésus, vous vous souvenez lors du fameux repas de la Sainte-Cène, avant l'arrestation de Jésus, Jésus parle de la nouvelle alliance. Hein? C'est la nouvelle alliance qui est scellée en son corps et en son sang. Évidemment, c'est les bases de l'Évangile, mais vous savez, les bases de cette nouvelle alliance-là, ce n'est pas l'absence de commandements. Très souvent, les gens vont penser, « Ah, la nouvelle alliance, c'est une alliance de grâce. Il n'y a plus aucun commandement. » Non, non, au contraire. La nouvelle alliance est une alliance de grâce, une grâce qui me permet d'appliquer et d'obéir aux commandements. Ce qu'auparavant, j'étais incapable parce que je n'avais pas les ressources, les dispositions pour pouvoir obéir parfaitement. Je n'avais pas l'esprit. Maintenant, à travers l'Évangile, j'ai, à travers cette nouvelle alliance-là, une providence divine incroyable qui est celle du fait que Dieu vient vivre en moi, que notre corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est ce qui me permet d'avancer avec sécurité devant Dieu, mais également avec sainteté. En payant lui-même le prix de sa propre justice et de la sainteté à la croix, Jésus nous accorde la possibilité de venir habiter en nous afin d'apprendre à lui obéir. C'est là la stratégie de la providence divine pour nous amener là où Dieu désire nous amener, venir vivre en nous. La providence de Dieu n'a pas pour but de nous rendre passifs. La providence de Dieu n'a pas pour but de me dire, « Miguel, tout est accompli, là, tu n'as plus rien à faire. » Non, non, tout est accompli parce qu'il y a encore des choses à faire, mais c'est moi qui vais les faire en toi. C'est ainsi que je vais pouvoir couper les vivres à la nature pécheresse qui parfois peut me tenter afin de la sous-alimenter et mettre ici en opération ce que l'Évangile a déjà fait dans ma vie, c'est-à-dire crucifier ma nature coupable et pécheresse. C'est une vérité théologique avec laquelle il faut constamment se souvenir pour être capable de marcher avec dignité sur le chemin de l'Évangile. Dieu ne s'en tient pas à exiger la sainteté de ceux qui veulent le suivre, mais il la promet à ceux qui lui appartiennent. C'est lui qui vient l'accomplir en nous, cette obéissance-là. Cette sainteté-là n'est pas notre œuvre à nous, c'est notre œuvre à lui. C'est sa providence dans nos vies. C'est lui-même qui veille à ce que son peuple n'échoue pas. Si Dieu se fie à son peuple pour pas qu'il échoue, c'est terminé. Mais c'est Dieu lui-même qui veille à ce que son peuple n'échoue pas. C'est très sécurisant, ça, pour nous, dans notre victoire, dans notre lutte contre la tentation. En fait, ce qui nous pousse à la sainteté, ce n'est pas la peur ou la crainte d'être jugé, c'est plutôt l'amour infini et téméraire de Dieu à notre égard. C'est ce qui nous pousse à la sainteté. Dieu, tu as voulu vivre, venir vivre en moi. Maintenant, qu'est-ce que je ne pourrais pas faire pour te rendre grâce que de marcher avec le matériel, les ressources, les dispositions que tu as déjà mis dans ma vie? Dieu ne nous purifie pas pour l'inactivité, mais il nous purifie pour le zèle, pour l'activité, pour une vie qui l'honore, pour une vie où est-ce que des gens autour de moi vont être à même de constater la personnalité, la puissance, la souveraineté du Dieu que j'adore. Une des choses qui est claire au sujet de la nature humaine, c'est que notre cœur suit toujours ce qui le satisfait et l'émerveille le plus. Notre cœur va toujours suivre ce qui l'émerveille le plus. Celui qui est comblé par Dieu va toujours magnifier sa grandeur. Mais celui qui est blasé ou lassé de la personne de Dieu va toujours miner sa beauté. C'est lui qui produit notre obéissance. Regardez par exemple ce que nous dit Hébreux, chapitre 13, au verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce qu'on voit ici, c'est que le croyant exécute le miracle que Dieu produit en lui. Celui qui produit le miracle, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui l'exécute. Et nous, on n'en est que les exécutants. Lorsque je dis ça, ça me fait penser un peu au fameux épisode. Vous vous souvenez, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6, Jésus est devant une grande foule. Et là, il commence à se faire tard. Là, les disciples lui disent, écoute, Seigneur, il dit, renvoie les gens, là, parce que là, il commence à être tard. Il faudrait qu'ils mangent, là, faudrait qu'ils prennent quelque chose pour leur donner des forces pour retourner chez eux. Et là, il y a une foule, et qu'est-ce que Jésus a à sa disposition? Bien, il y a 5 pains et 2 poissons. C'est nettement insuffisant, vous allez convaincre avec moi. Alors, que fait Jésus? Eh bien, Jésus rend grâce pour le peu de ressources qu'il possède. Il rompt les pains, il les donne aux disciples, afin qu'il les distribue dans la foule. Il partage aussi les 2 poissons parmi tout le monde, et sans que la nourriture manque, il en reste même 12 paniers. Est-ce qu'on peut dire que c'est un miracle? Vous allez en convenir avec moi, il s'agit de quelque chose de surnaturel. C'est un miracle. Pouvez-vous me dire, c'est qui a distribué la nourriture parmi la foule? Est-ce que c'est Dieu? Non. Est-ce que c'est Jésus? Non. C'est les disciples. Dieu a produit le miracle par l'entremise de la distribution de la nourriture des disciples. Eh bien, le miracle de la sainteté un peu opère de la même manière dans nos vies. Dieu accomplit le miracle de l'obéissance dans nos vies et nous, nous exécutons ce qu'il produit en nous. C'est à ce moment-là où est-ce que notre libre arbitre, notre faculté de décider par nous-mêmes et la providence de Dieu vient s'entremailler ensemble. C'est Dieu qui détermine, influence notre libre arbitre. Bien sûr, la décision nous appartient de lui désobéir. Mais si je lui désobéis, eh bien, ça me détermine simplement que je n'ai pas compris l'identité que j'ai reçue à travers le message de l'Évangile. La providence de Dieu nous guide toujours vers une transformation, comme je vous disais tout à l'heure, qui est lente, progressive, imparfaite, mais elle nous amène toujours un peu plus loin. Lorsqu'on regarde notre humanité, on peut juste se dire, « Seigneur, pauvre petit être que je suis, jamais je ne pourrai parvenir là où tes exigences veulent que j'arrive. » Et quand je pensais à ça, ça me faisait penser à une chanson, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup la musique, la chanson d'un chanteur acadien, peut-être que vous connaissez Damien Robitaille. Dans une de ses chansons, je vous la cite, voici ce qu'il dit. « Je suis au bout, je ne sais plus par où tourner, tellement coincé, tellement perdu.
Comme l'homme aveugle, j'ai besoin d'être guidé. Tends-moi la main, tout seul, je n'y arrive plus. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Y a-t-il quelqu'un que je pourrais suivre dans ce village, dans ce pays, sur cette terre? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Comme l'oiseau aux ailes brisées, je désespère. En manque de soins, en manque d'amour, sur mes genoux ce soir, je récite une prière, en espérant voir un plus beau jour. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Y a-t-il quelqu'un que je pourrais suivre dans ce village, dans ce pays, sur cette terre? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Et ce que j'aimerais répondre à M. Robitaille, c'est que bien sûr qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut nous offrir sa providence pour pouvoir non seulement faire une œuvre spirituelle dans nos vies, mais même déterminer, influencer ma marche spirituelle avec la personne de Christ qui, dans sa providence, non seulement est mort à la croix pour que je sois rendu acceptable à ses yeux, mais que nous puissions tous ensemble marcher selon la manière digne qu'il nous adresse à travers le fabuleux message de l'Évangile. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir ce matin? Je sais qu'il y a beaucoup de stock, il y a peut-être beaucoup de matériel. Est-ce qu'il y a soit des questions, des commentaires, des choses auxquelles vous auriez aimé qu'on revienne? Oui, Mme Roy. Attendez une petite minute, votre garçon arrive à votre rescousse, là. Merci, David.
Merci. Je sais que je ne sais pas.
Voilà.
Je sais qu'il n'y a pas de contradiction, mais ce qui revient depuis le début, je dirais tout le temps le verset ou la propos qui dit que celui qui dit qu'il n'y a pas de péché, il est menteur. Mm-hmm. Fait que dans ce sens-là, je sais que dans mon identité à Christ, le péché a été crucifié.
Tout à fait.
Mais c'est ça. C'est ma réflexion. C'est ce verset-là qui me revient. Je sais que j'aurai dans ma sanctification que Dieu produit en moi, elle ne sera pas complète jusqu'à temps que j'aille le rejoindre ou qu'il revienne. Mais ça, c'est un fait aussi qu'on vit tous comme enfants de Dieu.
Tout à fait. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, bien, il se confie en lui. Il ne se confie pas dans l'œuvre de l'Évangile pour produire le bien. Il se confie uniquement dans ses propres efforts. Ce que ce verset-là nous amène à penser, c'est que celui qui dit que, bien, voici, moi, je suis assez grand pour décider par moi-même de l'action ou du bien que je peux produire, bien, il ne reconnaît pas sa nature pécheresse. Donc, elle n'a pas besoin d'être crucifiée, alors que le premier pas pour marcher dans la sainteté, ce n'est pas de produire du bien, ce n'est pas de dire que je suis sans péché. C'est d'admettre humblement notre déchéance et de dire, Seigneur, j'ai absolument besoin que tu viennes vivre en moi pour mettre à mort ce qui me rend coupable. Merci, Josué.
Miguel?
Oui?
Quand tu vois un chrétien qui, finalement, tombe dans le péché, OK, c'est quoi le rôle de Dieu qui avait préparé des choses mieux que ce qu'il a fait? C'est quoi le rôle de Dieu qui se retrouve, finalement, on a des cas, soit dans le péché, prenons petit ou grand, mais maintenant, on n'en voit plus qui suivent le Seigneur, qui vivent de façon vraiment immorale. Il dit pourtant, le Seigneur, il avait touché sa... Dans ce qu'on voit, on a bien l'impression qu'il avait fait une profession de foi qui était sincère. Puis là, tu vois des gens qui ont quitté. Il dit, est-ce que finalement, Satan a emmené plus de d'éléments ou Dieu a permis qu'il s'en aille là-bas pour le ramener plus tard. C'est quoi la providence de Dieu dans des éléments où ce que les chrétiens là, abandonnent sa foi?
C'est une question délicate. Moi, ce que je vous dirais, c'est que la personne qui dit être sauvée par grâce, mais qui, par la suite, chemine et que sa vie ne rend aucun fruit, au contraire, elle offense la grâce de Dieu, bien, la suite des choses nous dit que ce n'est pas parce qu'elle disait à cette personne-là qu'elle est sauvée par grâce, qu'elle l'était vraiment. Elle n'a jamais reçu le plein évangile. Alors, je ne peux pas recevoir l'évangile à moitié. Je le reçois pleinement ou je ne le reçois pas. Donc, ce que ça me dit, c'est que la suite des choses me montre que cette personne-là n'a jamais été sauvée par grâce. Elle n'a jamais compris l'évangile. Donc, elle est encore avec une nature pécheresse qui n'a pas été mise à mort parce qu'elle n'a jamais compris totalement ce qu'en était. Mais si la personne revient et qu'elle se repent de ses fautes, OK, bien là, cette personne-là a compris le message de l'évangile et que Dieu a planifié des choses pour elle, mais qu'elle n'a pas été sensible à son unité spirituelle. Alors Dieu, bien sûr, a planifié des choses pour cette personne-là, mais elle n'a pas écouté l'unité spirituelle par laquelle elle pouvait les pratiquer. Elle a décidé de faire à sa tête. Alors si elle revient, bien elle nous démontre, OK, d'accord, tu as vraiment compris l'Évangile. Mais de ce que je vois, moi, des gens qui s'en vont, une fois qu'ils ont pris une décision de naître de nouveau, mais que leur vie maintenant va faire complètement le contraire, bien ça me démontre juste que elles n'ont pas été vraiment sauvées par grâce. Elles n'ont pas compris les merveilles par lesquelles il est possible de pouvoir vivre près de Dieu. Mais c'est une question délicate. Mais tout ce que ça me prouve, une vie qui offense Dieu par la suite d'une conversion, c'est que Dieu n'a pas vraiment exercé sa grâce envers toi parce que ta vie parle plus fort que ce que tu dis. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est comme ça que je lui répondrai.
Je pense aussi Piper, il fait référence au sol, aux terres, aux quatre terres,
oui.
Quand il dit que l'inquiétude et le monde qui attire remet en question le fait que la semence n'est pas tombée dans la bonne terre, quoi.
Tout à fait. Il y a différentes manières de recevoir la parole, puis Mme Roy nous en fait un bon exemple.
Pour revenir à ce que Denis, mon frère, disait tout à l'heure, que ça fait de la peine de voir que quelqu'un qui, on croit, qui a accepté le Seigneur, puis qu'il quitte ou il se retourne un peu à sa vomissure, ça me fait réaliser que je pense qu'un peu tout le monde, ce serait facile d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur, si on n'a rien à perdre, mais comme maître et seigneur de nos vies, ça c'est un peu comme emboîter ça, sauveur et seigneur de notre vie.
Beaucoup de gens ont beaucoup de facilité à accepter le Seigneur comme sauveur. Quant à l'accepter comme maître, bien là, peut-être que c'est une autre paire de manches. Il ne faut jamais oublier non plus que parfois, et moi-même, je suis d'une nature parfois un peu plus intellectuelle, oui, c'est facile de raisonner avec certaines pensées, parfois un peu abstraites. Qu'est-ce qu'on fait avec un chrétien, etc.? Mais souvent, c'est des questions très rhétoriques. Donc, il faut prendre, je pense, que le contenu de ce que M. Piper essaie de nous dire dans ce livre-là. Il essaie de dire, il ne nous donne pas cet enseignement-là pour qu'on puisse poser des questions abstraites, mais beaucoup plus des questions très concrètes qui s'adressent à nous personnellement. Comment je peux, dans ma vie, moi, éviter de marcher dans une ligne qui n'est pas digne de la vocation à laquelle Dieu m'adresse? Eh bien, c'est en me restant concentré sur l'unité que je possède à travers le message de l'Évangile. Donc, parfois, on peut être capable de tenter de bifurquer en se posant des questions très abstraites. C'est drôle. Personnellement, j'entendais parler d'un jeune homme récemment qui se posait des questions. Il dit, vous savez, près de l'Inde, là, il y a une petite île où est-ce qu'il y a une communauté qui vit. Ils n'ont jamais eu de rapport avec la modernisation. C'est une société extrêmement primitive. Et là, ils n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, ces gens-là, jamais, jamais. C'est une communauté extrêmement fermée. Ils n'ont pas de radio, il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien là. Il dit, comment ces gens-là peuvent venir à l'Évangile si on ne peut jamais leur en parler? Qu'est-ce que Dieu fait avec ces gens-là? C'est une question abstraite. Je ne dis pas qu'elle ne se pose pas, mais que si tu prends ça comme questionnement pour éviter que toi, tu prennes une décision, que toi, tu en as entendu parler, toi, tu as le privilège d'en entendre parler de ce message-là de l'Évangile. Donc, tu ne peux pas te réfugier derrière un argument où des gens n'ont pas entendu parler, pour tout, alors que toi, tu en as entendu parler, mais tu peux le posséder, ce pouvoir-là, de devenir une nouvelle créature. Alors, je comprends ton raisonnement, mais en même temps, tu te réfugies derrière un concept abstrait pour éviter de prendre une décision personnelle où toi, tu peux être impliqué maintenant et qui peut faire une différence dans ta vie. Donc, parfois, c'est bien de se poser des questions, mais il vient un moment où est-ce qu'il faut dire, OK, comment ça change la mienne? Quelqu'un d'autre?
Miguel?
Oui?
Un peu mon expérience d'avoir quitté l'Église dans le passé. Moi, je vivais... Je servais beaucoup dans l'Église. En même temps, dans la culture dans laquelle je vivais, je me laissais aller dans les clubs et les endroits qui t'amènent à désirer autre chose que ce que Dieu aimerait que je désire. Puis, à un moment donné, j'ai senti que j'étais hypocrite. Puis, dans ce sentiment-là, c'est soit que tu te repens de ton hypocrisie puis que tu te soumets, ou tu refuses de suivre la volonté de Dieu. Puis, à ce moment-là, moi, j'ai décidé de ne plus suivre la volonté de Dieu dans cet aspect-là. J'avais jamais renié Christ, mais... Parce que je n'étais pas capable de croire en autre chose que Dieu qui a créé l'univers. Et je n'étais jamais capable de croire en l'évolution, aucun autre Dieu. Je savais que Dieu, Jésus-Christ, c'était la vérité. Mais dans le péché que je voulais poursuivre, pour le poursuivre, il fallait que je quitte l'Église et mes frères et sœurs pour ne pas me sentir coupable et hypocrite, enterrer ce sentiment-là. Donc pendant 4 ans de temps, j'ai poursuivi ce que je voulais poursuivre. Puis, dans ce 4 ans, Dieu était tout le temps dans mon arrière-pensée, dans le fait que à chaque fois que je voulais faire quelque chose, je disais « c'est-tu correct, c'est pas correct? » Je sentais tout le temps qu'il y avait un combat. C'était irritant, puis je voulais... J'étais comme « lâche-moi », c'est comme « je vais continuer ». Mais après 4 ans de temps, après avoir suivi cette voie de désobéissance, au travail, je travaillais sur... au CHUM, le CHUM, puis... J'étais sur le toit, puis il y avait un lever de soleil qui s'étalait devant moi, puis je voyais tout le lever de soleil tout le long de l'horizon. Puis je réfléchissais, je me disais, est-ce que je suis heureux ou est-ce que je suis pas heureux? Puis j'ai réalisé, mais c'est Dieu qui a fait l'œuvre dans mon cœur pour réaliser que j'étais pas heureux dans l'état où j'étais et dans le chemin que je suivais. Puis j'ai répondu à Dieu, OK, j'arrête de me battre avec toi. Puis j'ai répondu à Jésus, je te suis, puis let's go, j'arrête. J'ai tout abandonné, puis je suis revenu. C'est difficile à... Des fois, je doute, tu sais, je me dis, est-ce que je suis vraiment ton enfant, tu sais... Parce que je continue à me battre avec le péché comme chacun d'entre nous. Hein. Donc, dans la culture qu'on vit, si on nourrit le péché, le doute peut revenir assez vite. Donc, je me dis, dans la providence de Dieu, Dieu a permis que je prenne cette décision-là. Mais aussi, il m'a jamais abandonné. C'est ma responsabilité, c'est pas Dieu qui m'a amené là, mais c'est moi qui ai décidé de... Mais je peux te dire que c'est pas Dieu qui m'a amené là? Ouais.
C'est un mystère, comme
c'est un mystère.
Il y a des choses qu'on peut pas saisir.
Je suis conscient que je suis responsable de mes décisions.
Oui.
La possibilité était là de me repentir, je me suis pas repenti. Je me suis repenti après 4 ans de temps. Hein, mais, ouais. Gloire à Christ. Juste un petit témoignage que je voulais partager.
Merci de ton témoignage, David. Tu sais, ce qu'on voit, c'est que c'est un cheminement. Hein? C'est un parcours. Et chacun d'entre nous dans l'Assemblée, quand on voit des gens qui vivent des moments difficiles comme ça, on est là pour faire un bout de chemin avec eux. Si on déserte, on ne peut pas les accompagner, les personnes. Si on les rejette, on ne peut pas les... Bien sûr qu'il y a des situations qui sont parfois très problématiques, mais c'est Dieu nous appelle en tant qu'Église à être des supports les uns pour les autres, à nous accompagner sur le chemin parfois difficile de la vie. Et je pense que ce que David vient de nous dire, c'est que même si parfois on prend des décisions qui sont parfois, à son avis, déraisonnables, bien, Dieu n'est jamais perdant dans tout ça. C'est nous qui le sommes si on continue sur le chemin de la déraison. Alors, merci David de ton témoignage. On va arrêter ici. Le temps est déjà écoulé, malheureusement. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Il n'y a pas de problème. Mais on va arrêter ici là, pour ce matin. Merci de votre attention, les amis. Je vais juste terminer avec un mot de prière. Et après ça, je vais vous laisser aller prendre un temps pour aller prendre votre café avant la célébration. Seigneur éternel, je veux te remercier ce matin pour le bénéfice que nous avons pu avoir, Seigneur, de plonger les regards dans ta parole. Merci pour la sécurité, Seigneur, que nous avons en toi. Merci pour les ressources que tu nous donnes. Merci pour ta providence, Seigneur, infinie envers nous. Parfois, il y a des choses qui sont incompréhensibles pour nous de comprendre dans tout cela. Mais Seigneur, tu nous les montres avec bienveillance. Apprends-nous. Apprends-nous à nous confier en toi, même lorsque notre raison parfois ne suit pas toujours... avec le même fil, Seigneur, apprends-nous à nous confier uniquement en ton nom, en ta grâce, en ton Fils Jésus, Seigneur, qui est venu nous racheter à la croix, afin bien sûr que nous puissions être rendus acceptables à tes yeux, mais que l'on puisse marcher d'une manière digne, Seigneur, de l'identité que nous avons reçue à travers la personne de Jésus. Merci pour toutes choses. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.